Chapitre 31 « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc, le lundi 21 mai, à minuit, dans le bois, à gauche, quand on entre par la rue d'enfer, mais nous croyons qu'on n'y peut plus entrer aujourd'hui, car la chaîne de la grille nous a paru rivée la dernière fois que nous sommes passés par là et que nous avons jeté un regard rétrospectif sur les événements dont cet enclos a été le théâtre. Donc, le 21 mai, à minuit, dans le bois, à gauche quand on entre par la rue d'Enfer, à droite quand on entre par la rue de l'Est, se trouvaient réunis, introduits par le charbonnier, guide et gardien que nous avons fait passer sous les yeux de nos lecteurs, et qui n'était autre que notre ami Toussaint Laverdure, se trouvaient réunis, disons-nous, 20 carbonari masqués, c'est-à-dire une vente particulière. Pourquoi et comment cette vente avait-elle choisi cet endroit pour se réunir, il nous est facile de l'expliquer. On se souvient de la nuit pendant laquelle M. Jacal, à cheval sur une corde, avait, en descendant dans la rue du Puits qui parle, découvert le secret des réunions des carbonari dans les catacombes. On se souvient que c'était à la suite de cela que M. Jacal était parti pour Vienne, et qu'avait échoué le complot qui avait pour but d'enlever le duc de Reichstadt. Des agents maladroits avaient éventé cette découverte, et la visite de M. Jacal n'était plus un secret pour aucun des conjurés. Cette visite, tout en renversant le projet si laborieusement conçu du général Le Bastard de Prémont, n'avait pas eu pour les conjurés de Paris toute l'importance qu'au premier abord elle semblait avoir. 10 régiments français, fussent-ils descendus dans les catacombes, n'eussent pu mettre la main sur un seul carbonaro, tant les 1000 sentiers des funèbres souterrains conduisaient à des retraites inaccessibles. D'ailleurs, dans 5 ou 6 endroits, les catacombes étaient admirablement minées, et il suffisait d'une étincelle secouée sur une mèche de ces mines pour faire sauter la rive gauche tout entière. Il est vrai qu'on s'engloutissait en engloutissant Paris, mais n'était-ce pas ainsi que Samson était mort? Cependant, avant d'en arriver à cette terrible extrémité, mieux valait abandonner momentanément les catacombes, quitte à y revenir dans les cas désespérés. Les lieux de réunion ne manquaient pas, et si les catacombes n'étaient plus possibles comme emplacement, elles pouvaient toujours servir de chemin pour aller çà et là dans l'ombre chez celui des frères qui offrirait son appartement. Ce fut ainsi, et dans les recherches que l'on fit à cette occasion, qu'un des conjurés qui demeurait rue d'Enfer s'aperçut une nuit que la cave par laquelle il pénétrait d'ordinaire dans les catacombes communiquait du côté de l'est avec une des caves de la maison déserte. Seulement, il était dangereux de se réunir dans une cave, fût-ce celle d'une maison déserte. On fit donc dans la cave une percée d'une 30aine de pieds, puis un trou, et l'on se trouva au milieu du bois. Les terres furent maintenues par des étais, de peur des éboulements. On laissa à l'extrémité de ce souterrain un passage pour un homme seul, et l'on résolut, jusqu'à nouvel ordre, de se réunir dans cette solitude, chacun bien décidé à brûler la cervelle du premier qui la viendrait troubler. Au reste, que l'on ne s'étonne point de tous ces accidents souterrains que nous décrivons minutieusement afin de donner toute sa vraisemblance à notre récit. Plus de 50 maisons du quartier où se passent les événements que nous racontons sont ainsi perforées, et nous pourrions citer autant de caves machinées comme des planchers de théâtre. Consultez par exemple un brave cafetier de la rue Saint-Jacques nommé Giverne, presque en face le Val-de-Grâce. Demandez-lui de vous faire visiter sa cave et de vous dire la légende de cette cave. Il marchera devant vous et vous contera que ce souterrain faisait jadis partie du jardin des Carmes. Mais à quoi bon un souterrain dans le jardin des Carmes, demanderez-vous, et où conduisait-il? Parbleu, chez les Carmélites, qui étaient en face, où est le Val-de-Grâce? Demandez à Giverne. Qu'on ne nous accuse pas de mettre des trappes et des souterrains là où il n'y a ni souterrain ni trappe. Toute la rive gauche, depuis la tour de Nesle, qui avait son souterrain donnant sur la Seine, jusqu'à la Tombissoire, qui a son entrée près de Montrouge, toute la rive gauche n'est qu'une trappe, du haut en bas. Et si les démolitions modernes révèlent les mystères du dessus de Paris, Un jour peut-être les habitants de la rive gauche se réveilleront effrayés en découvrant les mystères du dessous. Revenons à notre réunion nocturne. Cette réunion se composait, comme nous l'avons dit déjà, de 20 carbonari. Car quoique depuis 1824, la charbonnerie, ayant subi 1000 échecs successifs, fût dissoute de fait et n'eût plus d'existence apparente, ses membres principaux s'étaient retrouvés et avaient réorganisé la charbonnerie, sinon sous le même nom, du moins sur les mêmes bases. Le but de cette réunion était de jeter les fondements de cette société qui devait, peu de temps après, prendre le titre de société « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Ses fondateurs avaient principalement en vue de diriger les élections et de guider ou éclairer l'esprit public. On proposa divers modes de formation du comité qui devait administrer les affaires de la société. On convint de constituer ce comité au moyen d'élections trimestrielles qui auraient lieu dès que le nombre des sociétaires serait arrivé à 100. On convint en outre qu'on se renfermerait strictement dans la légalité, ou plutôt qu'on s'y barricaderait. Toutefois, ce n'était point assez d'avoir des réunions à Paris et de former un comité pour diriger les élections. Il fallait instruire les départements et les amener à la hauteur de la capitale. On parla donc de créer des comités électoraux dans chaque arrondissement et autant que possible dans chaque canton et d'entretenir avec ces comités des rapports permanents pour arriver à les faire fonctionner. Tel était le but de cette réunion nocturne dans laquelle furent jetés les premiers jalons de cette formidable société « Aide-toi, le ciel t'aidera » qui devait avoir une si grande influence sur les prochaines élections. On en était là de la discussion et il était 1 heure du matin à peu près quand on entendit craquer les branches sèches sous les pas d'un homme et qu'on vit une ombre noire apparaître à la lisière du bois. En une seconde, chaque conjuré eut à la main le poignard qu'il tenait caché dans sa poitrine. L'ombre s'avança. C'était Toussaint, le concierge de la maison déserte, Carbonaro lui-même, et placé là pour servir de gardien non seulement à la maison, mais encore à ceux qui s'y réunissaient. « Qu'y a-t-il ? » demanda un des chefs. « Un frère étranger, dit Toussaint, et qui demande à être introduit. « Est-ce bien un frère ? » « Il a fait tous les signes de reconnaissance. « D'où vient-il ? » « De Trieste. Est-il seul ou accompagné ?»« Il est seul. » Les carbonari se consultèrent en se réunissant en un semi-groupe en dehors duquel resta Toussaint. Et puis, après un moment de consultation, le groupe se rouvrit et une voix dit « Introduisez le frère étranger, mais avec toutes les précautions d'usage. » Toussaint s'inclina et disparut. Au bout d'un instant, on entendit de nouveau craquer les branches sèches et l'on vit s'avancer à travers les arbres deux ombres au lieu d'une. Les carbonari attendaient en silence. Toussaint amena au centre de la ligne décrite par eux le frère étranger et inconnu qui s'approchait guidé par lui et des yeux bandés. Là, il le laissa seul et se retira. La ligne des carbonari se referma en s'arrondissant et en formant un cercle autour du nouveau venu. Puis la même voix qui avait parlé, s'adressant à lui, « Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Que demandez-vous? » dit-elle. « Je suis le général comte le bâtard de Prémont, » répondit le nouveau venu. « J'arrive de Trieste, où je me suis embarqué après avoir échoué dans mon entreprise sur Vienne, et je viens à Paris pour sauver M. Saranti, mon ami et mon complice. » Il se fit un grand murmure parmi les carbonari. Puis la voix qui avait déjà parlé dit ces simples mots « Ôtez votre bandeau, général, vous êtes parmi les vôtres. » Le général comte de Prémont ôta son bandeau et son noble visage apparut à découvert. Aussitôt, comme un faisceau amical, toutes les mains se tendirent vers lui. Chacun voulut toucher la sienne, ainsi que dans un toast porté d'enthousiasme, chacun veut toucher le verre de celui qui l'a porté. Enfin, le silence revint. Le frémissement qui courait dans l'air s'éteignit. « Frère, dit le général, vous savez qui je suis. » En 1812, envoyé par Napoléon dans l'Inde, j'y devais organiser un royaume militaire en état de venir au-devant de vous et des Russes quand, par la mer Caspienne, nous pénétrerions dans le Népal. Je l'ai organisé, ce royaume, c'est celui de Lahore. Napoléon tombé, je crus le projet tomber avec lui. Un jour arriva M. Saranty. Il venait, toujours au nom de l'empereur, me rejoindre. Mais ce n'était plus l'œuvre de Napoléon Ier qu'il s'agissait de poursuivre. C'était Napoléon II qu'il fallait remettre sur le trône. Je ne pris que le temps de nouer des relations en Europe. Je partis le jour où j'appris qu'elles étaient nouées. Je vins par Djeddah, Suez, Alexandrie. J'arrivai à Trieste, où je m'affiliai avec nos frères italiens. Puis je me rendis à Vienne. Vous savez comment échoua notre projet. De retour à Trieste, je me cachai chez un de nos frères, et là j'appris la condamnation à mort de M. Saranty. Je m'embarquai à l'instant même pour la France, au risque de ce qui pourrait m'arriver, et jurant de partager le sort de mon ami, c'est-à-dire de vivre s'il vivait, de mourir s'il mourait. Complices du même crime, nous devons porter la même peine. Un profond silence accueillit ces paroles. Monsieur le bastard de Prémont continua. Un de nos frères d'Italie me donna une lettre pour un de nos frères de France, monsieur de Marande. C'était une lettre de crédit, et non une recommandation politique. Monsieur de Marande me reçut, je me fis reconnaître à lui, je lui dis le but de mon voyage en France, la décision que j'avais prise, le désir que j'avais d'être mis en rapport avec les membres principaux d'une haute vente. Monsieur de Marande m'apprit qu'il y avait réunion aujourd'hui même, me fit connaître le lieu de la réunion et m'indiqua par quels moyens je pouvais pénétrer dans ce jardin et arriver jusqu'à vous. Je profitai des instructions données. J'ignore si monsieur de Marande est parmi vous. S'il est parmi vous, je le remercie. Aucun mouvement ne laissa soupçonner que monsieur de Marande fût au nombre des assistants. Le même silence qui s'était déjà fait se fit de nouveau. Le général de Prémont sentit passer en lui comme un frisson, mais il n'en continua pas moins. « Je sais, frère, que nos opinions ne sont pas les mêmes. Je sais que parmi vous se trouvent des républicains et des orléanistes. Mais républicains et orléanistes veulent comme moi la délivrance du pays, la gloire de la France, l'honneur de la nation. N'est-ce pas, frère ?» Les têtes s'inclinèrent, mais pas une voix ne répondit. « Eh bien, reprit le général, je connais M. Saranty depuis 6 ans. Depuis 6 ans, nous ne nous sommes pas quittés une seule minute. Je réponds de sa bravoure, de sa loyauté, de sa vertu. Pour tout dire, enfin, je réponds de M. Saranty comme de moi-même. Je viens donc, en mon nom et au nom du frère, qui est prêt à payer son dévouement de sa tête, vous demander de m'aider à faire ce que seul je ne puis faire. » Je réclame votre appui pour soustraire un des nôtres à une mort ignominieuse, pour enlever coûte que coûte M. Saranty de la prison où il est enfermé. J'offre comme moyen d'exécution mes 2 bras, puis une fortune si grande qu'elle suffirait à solder pendant 1 an l'armée du roi de France. Frère, acceptez mon bras, semez mes millions et rendez-moi mon ami. J'ai dit, j'attends votre réponse. Mais le silence accueillit la chaleureuse interpellation du général. L'orateur regarda autour de lui. Au lieu de ce frissonnement qu'il avait senti courir dans ses veines, ce fut une sueur froide qu'il sentit couler sur son front. « Eh bien, demanda-t-il, que se passe-t-il donc ?» Pas un souffle ne répondit. Ai-je fait, sans m'en douter, continua-t-il, une proposition inconvenante, une offre inopportune ? Attribuez-vous à ma demande un intérêt purement personnel et croyez-vous que ce soit seulement ici un ami qui réclame votre protection en faveur d'un ami? Mes frères, j'ai fait 5 000 lieues pour venir à vous. Je ne vous connais ni les uns ni les autres. Je sais que nous avons le même amour du bien, la même haine du mal. Nous nous connaissons donc en réalité, quoique nous ne nous soyons jamais vus et que je vous parle pour la première fois. « Eh bien, au nom de la justice éternelle, je vous demande de soustraire à un jugement inique et infamant, à une mort terrible, un des plus grands justes que j'ai connus. Répondez-moi donc, mes frères, ou je prendrai votre silence pour un refus et votre refus pour la ratification de l'arrêt le plus injuste qui ait jamais été porté par une bouche humaine. » Mis si formellement en demeure de s'expliquer, les conjurés ne pouvaient faire autrement que de répondre. Celui qui avait déjà parlé leva donc la main pour indiquer qu'il allait encore parler, et dit « Frère, toute demande d'un frère est sacrée et, d'après nos statuts, doit être mise en délibération puis accueillie ou repoussée à la majorité des voix. Nous allons délibérer. Le général était familier avec ces formalités sombres. Il s'inclina pendant que le groupe qu'il avait entouré d'abord se détachait de lui et allait se reformer plus loin. Au bout de 5 minutes, l'affilié qui avait déjà porté la parole s'avança de quelques pas vers le général et lui dit, du même ton que le chef du jury prononce la sentence, « Général, je ne suis point l'interprète de ma seule pensée. Je parle au nom de la majorité des membres ici présents, et voici ce que je suis chargé de vous répondre en leur nom et au mien. » César disait que la femme de César ne devait pas même être soupçonnée. La liberté est une matrone qui doit rester bien autrement chaste, bien autrement immaculée que la femme de César. Or, frère, et c'est à regret que je vous fais cette réponse, à moins de preuves évidentes, irrécusables, patentes, lumineuses de l'innocence de M. Saranti, l'avis de la majorité est que nous ne saurions prêter la main à une entreprise ayant pour but de soustraire à la loi celui que la loi a justement condamné. Je dis justement, entendez-moi bien, général, jusqu'à preuve du contraire. Croyez que nos vœux les plus ardents ont accompagné M. Saranti pendant tout le temps qu'a duré ce douloureux procès. Croyez que nous avons frissonné au moment où le jugement allait être rendu. Croyez que notre cœur a saigné quand l'arrêt a été prononcé. Maintenant, général, prouvez-nous l'innocence de M. Saranti, et ce ne seront plus 2 bras, 10 bras que vous aurez pour seconder les vôtres, ce seront les 100 000 bras de l'association. Puis, faisant un pas de plus vers M. le Bassard de Prémont, général, ajouta l'orateur, nous apportez-vous une preuve de l'innocence de M. Saranti? Hélas, dit le général, en baissant la tête, je n'ai d'autre preuve que ma propre conviction. En ce cas, reprit le chef Carbonaro, la délibération subsiste dans toute sa rigueur. Et saluant M. le Bastard de Prémont, il rejoignit le groupe des autres conjurés qui s'apprêtèrent à se retirer. Mais relevant la tête et étendant les mains pour tenter un dernier effort, frère, dit le général, voilà la réponse de la majorité et je m'y soumets. Mais permettez maintenant que je fasse un appel aux individualités. « Frère, est-il parmi vous un cœur convaincu, comme moi, de l'innocence de M. Saranti, alors que ce cœur, ami du mien, se joigne au mien, et j'essaierai d'accomplir avec lui ce que j'eusse été heureux d'entreprendre avec votre aide à tous. » L'orateur Carbonaro se retourna vers ses compagnons. « Frère, dit-il, s'il est parmi vous un homme convaincu de l'innocence de M. Saranti, il est libre de se réunir au général et de tenter avec lui tous les hasards de la bonne et de la mauvaise fortune. » Un homme se détacha du groupe, alla poser sa main gauche sur l'épaule du comte de Prémont et de la main droite, enlevant son masque. « Moi, dit-il. »« Salvatore, répétèrent les 19 autres. » C'était en effet Salvatore qui, convaincu de l'innocence de M. Saranti, venait offrir son aide au général. Les autres carbonari s'enfoncèrent un à un dans l'allée des sycomores qui conduisait à l'entrée du souterrain et disparurent dans l'obscurité. Salvatore resta seul avec le comte de Prémont.